I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
On y est. C'est le dernier volet d'entretien avec Grégory Zawi, le cerveau, l'inventeur de l'arnaque à la taxe carbone. Ex-amoureux de la thune, passé par la case prison, avec lui on parle présent, futur. Grégory a brassé des millions avant de passer 5 ans à l'ombre, comme on dit. Ces expériences l'ont-ils conduit à une forme de sagesse? Ou a-t-il reconverti son ambition? Est-ce qu'au fond, tout ce qu'il aime ne reste-t-il pas tout ce qui brille? Bonne écoute.
Ta situation légale aujourd'hui, c'est quoi?
Quand on dit légal, on dirait qu'il y en a une illégale également.
Ouais.
Il n'y a pas de situation illégale, ouais. Il y a une situation tout court qui est ce qu'elle est. Je suis sorti de prison sous brasse électronique le 3 août 2020. On nous a tombé dessus la production des Rois de l'Arnaque, qui sont Gaumont et un autre producteur indépendant qui est Benjamin Lalouf. On nous a dit, voilà, on va commencer le tournage en septembre. Et si vous ne participez pas, de toutes les manières, on va le faire sans vous. Un peu comme le documentaire, vous savez, sur Strauss-Kahn. Mm-hmm. Ils ont fait le documentaire sans lui. Non, mais je donne l'exemple, pas le contenant, pas le contenu. Et ça serait bien que vous y participiez, parce qu'au moins, vous pourrez donner votre avis et répondre aux questions. Donc, je me suis laissé porter. Ce que je voulais vous dire aussi, c'est que pendant les 18 mois de détention que j'ai fait, les derniers 18 mois, parce que mes 5 ans, je les ai faits en 3 périodes, j'étais en raisonnement binaire, en me disant, qu'est-ce que je fais ? Soit je sors de cette histoire, enfin je sors de prison, je change de nom, je m'étais renseigné pour pouvoir changer de nom, changer de vie, enfin un tas de trucs, j'arrête complètement ce truc-là, je veux plus jamais entendre parler, ou bien j'essaye d'en faire une force, d'écrire un bouquin, mais sans savoir que j'allais tourner ce truc-là et j'allais avoir tout cet intérêt du public sur ce qui allait me tomber dessus. Donc je sors et, comme je viens de vous dire, la production me tombe dessus. Et Marco, qui met aussi un coup de pression, m'a dit « Viens, on le fait. » J'ai dit « Ok ». Donc on a signé ce fameux contrat. On n'a pas été payé, parce que c'est un documentaire. Même si Marco, il raconte qu'il avait touché, on n'a rien été payé du tout. C'est pas vrai du tout. On n'a pas gagné un euro, même si on a plus de 10 millions de vues rien qu'en France, sur Netflix France. On tourne ça pendant presque un mois et demi, deux mois, pas tous les jours, hein, par intermittence. Et puis après, silence radio pendant un an, jusqu'au 3 novembre 2021, le jour de la sortie du documentaire, qui a failli ne pas sortir, parce que moi j'ai failli faire bloquer avec des avocats à la sortie, parce qu'ils avaient changé le titre un mois avant sa sortie. Ils voulaient l'appeler Arnaque, Crime et CO2. Mm-hmm. Et moi je ne voulais pas du tout que mon nom soit associé au mot crime. Moi j'ai peut-être fait des conneries, je suis un délinquant, ce que vous voulez, j'assume mes fautes. Il n'y a aucun problème, mais je ne suis pas un criminel. Donc j'ai pris un grand avocat spécialisé en droit d'audiovisuel qui les avait mis en demeure. Et puis ils sont revenus sur le titre qui initialement s'appelait en anglais Lord of Scheme, les seigneurs de l'arnaque. Et pour le marché français, ils l'ont appelé les rois de l'arnaque. Et quelques jours après, la production a reconnu, quand le truc il est parti comme ça en flèche, et ils ont eu l'honnêteté de me dire, encore assez récemment, j'ai déjeuné avec Olivier Bouchara là, il y a 10 jours, il m'a dit « je pense que le titre a sauvé le film ». Et je suis assez content d'y être pour quelque chose. Donc il y a eu, le film est sorti, il y a eu un emballement médiatique assez fort. Moi, je sais que je ne suis pas le personnage qu'on voit le plus, hein, c'est un fait établi. Mais je dis toujours, sans Marco, il n'y aurait peut-être pas eu ce film, et sans moi, il n'y aurait peut-être pas eu le Carbone. Et les gens, si on n'a pas le même public, et les gens s'intéressent beaucoup à l'ingénierie, comment ça s'est fait, comment ça a pu se faire. Surtout la génération des 20-25 ans, que j'ai beaucoup rencontrés, qui, eux, découvrent cette histoire à travers ce documentaire qui leur pète à la gueule. La génération des 40-50-naires, enfin la mienne, ils ont vécu l'actualité de ce truc-là. Parce qu'on parle quand même, ça s'est fait en 2008, hein, tout ça. Entre 2008 et 2009, aujourd'hui, on est en 2022, ça fait 13 ans. J'ai même envie de vous dire, il y a même prescription. Mais les gens qui ont la vingtaine d'années, ils trouvent ça pharaonique.
Qu'est-ce qu'ils trouvent pharaonique? La permissivité, la brèche dans laquelle tu as pu... Ouais, la montant, ouais.
Les montants, et quand après on leur explique que c'est l'État qui a envoyé elle-même l'argent... Enfin, ils se disent, mais c'est pas possible. Et eux, vraiment, ils découvrent ça et ils sont assez fascinés. Ouais.
D'accord. Et toi, qu'est-ce que tu fais quand tu as des jeunes, justement, que tu vois fascinés? Tu les décourages?
Alors, moi, je suis le premier surpris par la réaction du public et ce succès. Pourquoi? Parce que quand vous êtes jugé au pénal, en correctionnel, vous êtes jugé au nom du peuple français. C'est ce qui est écrit quand le jugement est rendu. Vous avez votre feuille marquée au nom du peuple français, puis on vous lit l'énoncé de votre condamnation. Contrairement aux assises, où c'est le peuple français directement qui condamne. Donc quand, pendant des années, enfermé, on m'a dit que j'étais quelqu'un de pas bien, notamment même entre détenus, hein, parce qu'entre détenus, on a nos propres jugements et appréciations. Quand moi, il y a un mec qui me disait, enfin plusieurs fois, ça arrivait des détenus qui me disaient « Ouais, toi, t'as volé l'État, c'est pas bien, ils aiment pas ça ». Je lui dis, ouais, j'aurais peut-être dû, je sais pas, j'aurais pas pu le faire de toutes les manières, c'est pas dans mon éducation. Ouais, vendre la drogue, tu crois que c'est mieux, vendre la mort. Bon, en attendant, il restait moins longtemps en prison que moi. Vous voyez. Donc, si vous voulez, ce que je me dis, c'est que pendant toutes ces années, on m'a dit que j'étais quelqu'un de pas bien, que j'avais volé l'État, j'ai volé tout le monde. Et qu'aujourd'hui, on nous appelle les Robins des Bois. Il y a une fascination du public, les messages que je reçois d'empathie. Du public aux quatre coins du monde. J'ai même récemment reçu des messages d'Australie. Il m'a dit « Vous allez rebondir comme un kangourou ». J'ai reçu des messages du Venezuela, enfin des pays totalement improbables. Quoi. Bon, ça, c'est la puissance de Netflix.
On t'arrête dans la rue ?
Oui. Ah oui, bien sûr.
J'aimerais que tu nous racontes un petit peu ta situation aujourd'hui. Où est-ce que tu vis ? Avec qui ? Comment tu vis ?
Alors aujourd'hui, je suis inscrit à Pôle emploi. Pôle emploi, ils ne savent pas quoi faire de moi. Pourquoi ? Parce que dans ma condamnation pénale, hormis d'avoir été condamné à des années de prison, et à rembourser des centaines de millions d'euros, je suis également condamné à ne plus pouvoir exercer aucune activité de commerce ou de dirigeant ou d'administration d'entreprise, quelle qu'elle soit. C'est-à-dire tout ce que j'ai fait les 40 dernières années de ma vie, ça m'est totalement interdit. Donc je suis une vraie galère pour Pôle emploi. Ils ne savent pas quoi faire de moi. J'ai eu la chance quand même, grâce à ça, d'avoir été sollicité par une maison d'édition où je suis en train d'écrire ma biographie qui va sortir au mois d'octobre aux éditions Hugo et compagnie. J'ai aussi un producteur de théâtre qui est Philippe Delmas qui m'a donné ma chance, qui me fait confiance, où je vais être seul en scène, faire un seul en scène au théâtre Apollo à la rentrée également. Je suis mis en scène par... Alain Dejoie, dit Papy, qui est notamment qui a été le metteur en scène de Jamel Debbouze et de plein de stand-uppers très connus.
Sacrée reconversion. Hein.
Oui, j'ai une co-autrice qui s'appelle Pascale Memery, qui a écrit beaucoup pour TF1 des séries, notamment les Joséphine Ange Gardien. Elle écrit avec moi. J'ai plusieurs rendez-vous de production avec beaucoup de producteurs pour imaginer la suite des Rois de l'Arnaque. Où je participe au scénario, et c'est là où je vais expliquer le thème, ça va être ça, où est passé l'argent et ce que j'en ai fait, parce que c'est la question qui intéresse le plus le public. J'ai aussi un documentaire qui est en train d'être tourné sur moi pour une plateforme. J'ai aussi un américain, producteur américain, qui vient de racheter les droits de mon livre pour les États-Unis.
Ton livre qui n'est pas encore écrit?
Oui, ouais, il a pris les droits dessus, il a mis la main dessus pour le marché américain. Ouais.
Donc là, en attendant que tout ça arrive, tu vis de Pôle emploi?
Là, je vis de Pôle emploi, absolument. Pôle emploi est aussi une avance que j'ai eue de mon éditeur.
Ouais. Tu peux nous dire où tu vis?
Alors, je vis entre le 93 et ici, là où on est, où je passe mes journées.
Donc, un studio?
Oui, tout simplement.
Dans le 6e arrondissement?
Oui.
Seul?
Oui.
Oui.
Oui, seul.
Tes enfants sont avec leur maman?
Mes enfants, oui, sont avec... Oui, mais absolument, oui.
Absolument. Tu nous diras pas où est le reste de l'argent, s'il y en a encore?
Bah, laissez-moi vendre mon film.
Tu le diras dans ton film.
Ça me permet de vendre mon film et de faire rêver le public aussi.
Mais t'as encore de l'argent?
Non, j'ai plus d'argent. J'ai beaucoup de souvenirs.
T'as des dettes?
Oui, j'ai beaucoup de dettes. J'ai beaucoup de souvenirs et de dettes. Ouais.
T'as combien de dettes? T'as quoi comme dettes?
Oh, des centaines de milliers de millions d'euros. Ouais.
Mais de où, à qui?
À l'État français. Moi, je vous ai dit, j'ai qu'une seule, enfin deux, comme je l'ai dit, deux parties civiles. Il y en a une à m'a demandé un euro, la caisse des dépôts, et l'autre, en fait, il n'y en a qu'une seule, c'est l'État français. Et ça d'une certaine
Comment
manière.
Comment ça marche d'avoir une dette à l'État français? T'as été condamné à verser.
J'ai mon seul créancier, c'est l'État français.
Tu lui dois combien à peu près?
Des
400 millions
en centaines de millions d'euros. Mais c'est même pas moi-même.
Tu rembourses combien par mois?
En fait, vous remboursez en fonction des revenus. C'est assez bien fait. Heureusement d'ailleurs. Moi, actuellement, je rembourse par rapport à mon revenu de l'ordre de 400 euros par mois. Mais attention, j'ai déjà été saisi de sommes considérables, de biens immobiliers à travers le monde, j'ai payé des cautionnements très élevés. Enfin, vous voyez, j'ai pas mal d'argent qui a été...
Du coup, tu vis là, tout de suite, là, aujourd'hui, là, quand on fait cette interview, tu vis avec combien à peu près par mois, dans une fourchette? Pour comparer avec ce que tu avais avant, tu
vois. Quelques milliers d'euros. Par mois. En dessous de 3000, voilà. Ouais, on va dire ça.
Donc, comment...
Pas 3000, c'est pas mes revenus. Hein. Chez Pôle emploi, j'ai beaucoup moins. Mais si je calcule par rapport à l'avance du bouquin que j'ai eu, voilà.
Oui, d'accord.
Il y a quelques semaines. Ouais.
Donc, tu es passé de très, 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 très riche à la prison, à cette vie un peu plus modeste. Comment est-ce que tu vis ce déclassement-là? Est-ce que c'est pas trop dur, toi qui adores les belles choses?
Mais aujourd'hui, je suis plus riche que je ne l'ai jamais été. Parce que je suis libre. Et la liberté, elle n'a pas de prix. Vous comprenez, je suis libre. Moi, j'ai pris la décision de me rendre. Moi, je me suis rendu deux fois volontairement à la police. J'ai envie de vous dire, moi, quand je sais que la police, elle me cherche, elle ne peut pas me trouver. Parce que je connais leur fonctionnement, je connais les mécanismes, à moins que j'ai vraiment un coup de malchance. Et puis, moi, je ne suis pas dans la provocation, je ne vais pas aller prendre des selfies devant des commissariats de police, tout ça. Donc, je suis vraiment quelqu'un de très discret, je ne provoque personne. Je fais très attention aux endroits que je fréquente. Donc j'avais vraiment, sauf coup de ma chance, le moyen de me faire arrêter. J'avais pas de moyen de communication, j'avais tout coupé. Enfin, j'étais ultra, ultra, ultra prudent. Mais aujourd'hui, pour moi, j'ai la plus belle chose que j'ai jamais eue depuis mon adolescence. C'est ma liberté. Et avec cette liberté, je vais pouvoir reconstruire et faire ce qui me plaît. Et en plus, aujourd'hui, j'ai un début de lumière sur moi. Et ça, la lumière, ça ne peut pas s'acheter. Ça aussi, la vie me l'a appris assez récemment. C'est qu'on ne peut pas acheter la lumière. Si elle vient à vous, c'est qu'il y a une raison. Si le public vous aime, c'est qu'il y a une raison aussi. Et ça ne s'achète pas.
Donc là, ton prochain but, c'est la lumière plutôt que le fric?
Non, ce n'est pas tant la lumière. C'est devenir artiste. Vous savez, Pôle emploi, comme ils n'avaient pas quoi faire de moi, ils m'ont fait faire un test de compétences de deux organismes différents. Et ben vous savez quoi, ce qui est sorti dans le classement, en premier, ce qui est sorti, c'est artiste, et en second, avocat ou procureur.
Ça fait sens, oui.
Ben voilà, ça correspond un peu à ce qui m'arrive et ce que je vous ai raconté tout à l'heure.
Pas très loin de Bernard Tapie, finalement, hein, comme parcours. Ben quand même, hein, il y a des vrais points communs, quoi.
Bah écoutez...
Le fric, les rapports avec la justice...
Il a été ministre, je ne l'ai pas encore été.
Pas encore.
Je n'ai pas encore été ministre, mais c'est pas... Midi, c'est pas... Je pense qu'il y a mieux.
T'as pas mal parlé pendant cet entretien d'achat. D'achat et d'achat compulsif.
Ouais.
Aujourd'hui, c'est pas dur de te retenir quand tu vois quelque chose qui te plaît?
Alors, je vais vous raconter une histoire qui m'est arrivée il y a quelques semaines. J'ai un ami qui m'a appelé, qui m'a dit « T'as déjà eu des montres Patek Philippe ?» Je lui ai dit « Oui, complètement. » Il m'a dit « Tu les as achetées en ton nom directement ?» Je lui ai dit « Oui. » Il m'a dit « Donc, ça veut dire que t'es enregistré chez eux ?» Je lui ai dit « Oui, absolument. Je suis client de la maison Patek Philippe. » Enfin, à l'époque. Il m'a dit un truc incroyable qui se passe en ce moment sur cette marque. Il y a un engouement terrible. C'est que les montres, quand elles sortent du magasin, elles valent jusqu'à 10 fois leur prix. Alors, est-ce que tu peux aller essayer d'en acheter une ou d'être sur une liste d'attente. Enfin, eux, ils appellent ça liste de souhaits chez Patek Philippe. Et d'attendre, et le jour où elle sortira, où tu l'auras, moi, je te finance, tu l'as, on la vend, on fera moitié-moitié, bref. Je dis, OK, pas de problème. J'ai été les voir. Il fallait d'abord prendre rendez-vous pour être reçu chez eux. Et ils devaient s'assurer que, effectivement, j'étais bien client de la maison. J'ai été reçu chez eux, place Vendôme. Et ils m'ont montré un certain nombre de montres qui n'étaient pas disponibles, mais sur laquelle je pouvais être inscrit sur leur liste de souhaits. Et ben, vous savez quoi, il y avait une montre qu'ils m'ont fait essayer, qui valait aux alentours de 60 000 euros chez eux, c'est-à-dire qui vaut 400-500 000 en sortant du magasin. Je vous promets que ça ne m'a procuré aucune émotion.
Alors qu'avant, ça t'aurait mis au plafond.
Ah ouais.
Ah ouais.
Rien. D'abord, je la trouvais pas très jolie, franchement. Je trouvais pas ça très spécialement beau. Vraiment, ça me... Aujourd'hui, quand je fais mes répétitions sur scène, je suis beaucoup plus... ça me procure beaucoup plus de joie. Je suis beaucoup plus heureux.
Donc, fini les grosses bagnoles, fini les belles montres. Il te reste ta machine à café. Et puis sinon...
Des souvenirs.
Des dettes.
Des histoires à raconter. Mmh.
Donc, est-ce que tu es un adepte maintenant un peu de la décroissance, de la consommation raisonnée?
Non, j'ai appris, comme disait le roi Salomon, heureux est l'homme qui sait se contenter de ce qu'il a. La prison m'a appris ça. Vous voyez, en prison, on se réjouit de pas grand-chose. Hein. On peut se réjouir même d'une lettre. Vous voyez, en prison, pourtant, c'est rien, une lettre. Vous savez, la lettre d'un avocat ou du contrôleur général des lieux de privation de privatisation de liberté. À chaque fois qu'il m'écrivait, lui, j'étais content. J'ai même échangé une correspondance avec Macron. Et aussi, j'étais content quand je recevais courrier de la présidence de la République. Vous voyez, donc, j'ai appris, tout ça m'a appris à me contenter de peu.
C'est quoi une correspondance avec Macron?
Bah, c'est de lui écrire et il vous répond, depuis la prison.
Tu lui as écrit pour lui demander une réduction?
Non, pas pour lui demander, non, pas du tout. Non, je lui ai rien demandé, au contraire. Je l'ai remercié de certaines choses.
D'accord.
Voilà.
Tu dirais pas quoi?
Non, c'est je l'ai remercié. Il m'a pas rendu de service à moi particulier. Attention, il m'a rendu zéro service, c'est pas le problème, mais il y a eu un avancement au sein de la détention. Auquel il a voulu marquer un coup. Et vous savez, les gens en général, ils se plaignent tout le temps quand ça va pas, et quand ça va, ils le disent pas. Ben moi, je fais partie de ceux, quand ça va, je le dis aussi. Et j'ai voulu le lui dire, tout simplement.
Est-ce que tu penses que tu as vraiment changé sur ce rapport aux achats? Est-ce que... Moi, j'ai un peu de mal à te croire, en fait. Je veux bien croire que tu as changé, mais en vrai de vrai, je pense quand même qu'il y a des trucs. T'as encore ce kiff de la consommation.
Oui, mais il est réduit.
Voilà, il est réduit.
Il est réduit et... aujourd'hui, il est réduit, ouais.
Ça t'arrive de rêver avec la vie d'avant?
Non. Non, parce que j'étais pas heureux. Matériellement, je l'étais, mais j'étais pas heureux. J'étais toujours en stress.
Angoissé?
Trop angoissé. Je savais que j'allais devoir retourner en prison. Ça, aujourd'hui... ma liberté, je ne peux pas la qualifier, elle n'a pas de prix. Aujourd'hui, je suis libre. Et avec cette liberté, je vais accomplir des choses incroyables.
Est-ce que, donc, pour revenir à ton entourage, à tes amours, tes amis, maintenant que tu as vraiment beaucoup moins de fric, qu'est-ce qui reste? Est-ce que ça a changé?
Non, les vrais amis, c'est les mêmes.
Les vrais amis, c'est les mêmes. Et les nouvelles rencontres?
Je vais vous dire, la personne Les personnes qui ont le moins changé quand j'ai eu plus de pognon, qui n'ont pas changé du tout d'ailleurs, c'est mes chiens.
C'est ta famille peut-être aussi.
Non. Non. Non, non, ils peuvent changer aussi.
Papa, maman.
Pas, c'est pas qu'ils changent, mais ils peuvent avoir des fois des comportements où ils vous comprennent pas, vous voyez. Le seul qui n'a pas changé, enfin j'en avais deux à l'époque, c'est des chiens. Eux, ils s'en foutent, vous soyez riches, célèbres.
Ça fait pas beaucoup, quoi.
Ça fait une qualité de conversation qui est quand même un échange qui est limité à. C'est beaucoup d'amour, mais c'est pas beaucoup d'échanges, quoi.
Ouais, mais c'est sincère.
Intellectuel. Ah, ça, c'est sincère.
Vous voyez, c'est gratuit, c'est sincère, ils ne demandent rien en retour. Non, les gens, il y en a qui. Non, des amis, non, mes amis, non, ils ont. Moi, j'en avais deux ou trois, c'est tout, des amis qui m'ont soutenu. Hein.
Pas plus ?
Non.
Parce que tu devais en avoir beaucoup quand même à l'époque où tu avais des millions.
Oui, mais c'est des. C'est des gens de passage, quoi. C'est des gens. Ils sont pas là pour vous. Ils sont là que parce qu'il y a de l'argent, parce qu'il y a de l'intérêt, parce qu'ils prennent votre lumière. Parce que...
Et du coup, ça t'a rendu méfiant ?
Réaliste. Beaucoup plus réaliste. Méfiant, je l'ai toujours été. Méchant, méfiant, j'ai toujours été, mais beaucoup plus réaliste.
Et par rapport aux nanas, est-ce que c'est plus compliqué de se présenter ?
Alors écoutez, je vais vous dire un truc. C'est plus facile quand on a la lumière que quand on a de l'argent. Alors si on a les deux, ça je sais pas, j'ai jamais eu les deux en même temps, mais la lumière attire plus que l'argent. Alors si vous avez les deux, alors je pense que c'est jackpot. Hein.
Donc t'as complètement...
Moi une nana aujourd'hui qui veut... qui me sollicite ou quoi, je lui dis, moi, je suis ruiné. Hein. Je vais pas, comme les influenceurs, là, je vais pas t'amener à Cannes, je vais pas t'amener à Saint-Tropez, hein, je pourrais te payer un restaurant, et c'est tout. Elle se marre, elle s'en fout.
T'as déjà fréquenté une nana qui avait plus de fric que toi ?
Ouais. Non, mariée, non. Non, mariée, non. Toutes les femmes, enfin, les deux femmes que j'ai eues, elles étaient, non. Ouais, ça veut fréquenter une fille qui a plus... Oui, oui, ça m'est arrivé,
ouais. Ouais. T'as pas toujours été celui qui rinçait, quoi.
Ah si, toujours. Ça n'a rien à voir. Ça, c'est une question d'éducation.
D'accord.
La fille, elle peut être plus riche que moi, 100 fois, princesse que vous voulez. Elle paiera jamais son café ou l'addition du restaurant, jamais. Pardon ?
T'as un truc comme ça qui structure tes...
Ah, c'est des principes d'éducation qu'on m'a donné. Une femme, elle n'a pas à payer son café, sa bouffe ou quoi que ce soit. Moi, pendant très longtemps, je lisais les magazines féminins. Je lisais Elle, Vogue, Harper Bazaar. Mais pas pour... je voulais pas devenir transsexuel ou pas du tout. Au contraire. C'était pour apprendre ce qu'une femme, elle aime, ce qui peut lui faire plaisir, pour pouvoir lui faire plaisir. Comprendre la femme. Et aujourd'hui, il n'y a plus besoin, parce qu'avec Instagram... Il n'y a plus besoin de tout ça, quoi. Vous vous inscrivez sur, vous savez, les images, les trucs, les avant-premières.
Mais pour toi, ça fait partie de ta séduction, en tout cas, soit d'avoir de l'argent, soit d'avoir de la célébrité.
Le bon Dieu doit m'aimer, parce que l'argent que j'ai pu, il a été compensé par la lumière. Donc ça fait que je suis pas totalement à poil, quoi.
Il y a eu un moment où tu as eu peur d'avoir ni l'un ni l'autre, où tu n'as pas vu...
Voilà, bien sûr.
Ouais. Quand tu étais à Londres, justement.
Je me disais, j'avais 20 kilos de plus, je me disais, ça y est, c'est fini. Je suis cuit.
Et aujourd'hui, l'argent n'est plus donc le centre du truc. Ça s'est déplacé.
Ouais.
Maintenant, ce que tu veux, c'est faire une belle carrière.
Je veux aussi réparer ma faute auprès de l'État français. En travaillant normalement, j'ai aucune chance de pouvoir rembourser tous ces millions-là qui me réclament.
Ah, mais t'espères les rembourser, les centaines de millions ?
Bien sûr.
Mais tu penses que tu vas devenir une telle star que tu vas faire des centaines de millions ?
Pas du tout, non, je vous dis, aucune... Même si je deviens demain Tom Cruise, j'aurai pas assez d'argent pour rembourser tout ça. Non, non, pas du tout, c'est pas ça. Ce que je vous dis, c'est que je voudrais rembourser et réparer d'une manière non conventionnelle. C'est-à-dire un peu à l'américaine. De manière à pouvoir... Vous savez, les meilleurs serruriers sont les anciens cambrioleurs. C'est-à-dire de mettre en place pour le gouvernement des systèmes anti-fraude, de prévention. Pas des trucs, aller travailler pour la police. Ça ne m'intéresse absolument pas, je le ferai jamais. Mais de mettre en place, de faire que de la prévention sur des failles que j'ai détectées. Et je vous promets qu'en l'espace de quelques mois, j'aurai remboursé largement les économies que j'aurais fait faire au gouvernement, largement au-delà de ce que je dois.
Ça fait longtemps que tu le proposes, ça. Ils n'ont pas répondu.
Il y a un problème électoral, parce que c'est tombé pendant... Et c'est pas fini, on attend les législatives.
Ah d'accord, donc t'espères vraiment te faire embaucher par l'État français
Je sais pas que j'espère, c'est pas une embauche, c'est un service que je vais leur rendre.
Et le fait d'être vu comme... Enfin, d'être célèbre, en fait. Et le fait d'être célèbre...
Je suis pas célèbre.
D'avoir une certaine notoriété... Ouais. T'as dit à Laurence qu'on te reconnaissait dans la rue, il y a des gens qui t'écrivent du monde entier, la série cartonne, tu vas avoir... Le fait d'avoir cette célébrité grâce à l'arnaque...
Alors vous savez que c'est qui vient de me dire ça, vous êtes la deuxième personne à me le dire. Enfin, pas exactement, elle ne m'a pas dit de la même manière. C'est il y a quelques jours, j'ai vu ma conseillère de probation, vous savez, qui fait mon suivi post-carcéral. Et donc elle a fait le bilan, elle m'a demandé où j'en étais, et je lui ai dit, voilà... Pôle emploi, voilà, le spectacle, à la rentrée, machin, voilà, de quoi je vais vivre, tout ça, parce que c'est ça qui compte. Et elle s'interroge, elle me dit, ce qui est fou, c'est qu'il y a des gens aujourd'hui qui vont payer pour venir vous voir, qui vont acheter votre bouquin, pour comprendre comment vous avez pris leur argent de l'État. Je lui dis, mais c'est pas illégal. Elle m'a dit, non, c'est pas illégal, mais ça me gêne. Quelque part, c'est...
Moralement, ça la gênait.
Ça la gênait, ouais.
T'auras pas de retraite.
Si, pourquoi?
Bah t'as cotisé, etc.
J'ai eu des salaires. Donc, quand vous êtes au Pôle emploi, vous cotisez. Hein.
Ah ouais.
Et les prélèvements.
Et pour tes enfants, t'as plus d'argent, en tout cas là, tout de suite, pour prévoir leur avenir ou pour leur payer des super études que tu pouvais, j'imagine, espérer avant.
Ma fille aînée, elle fait des super études. Elle a eu un prêt étudiante. Mon second fils, lui, il a arrêté au bac parce que c'est lui qui s'est occupé de moi quand j'ai eu mes problèmes, quand j'ai dû retourner en prison la dernière période. Il a pris le relais. Et mon autre fils, il est à la Sorbonne. Et la petite, elle est à l'école. Elle a 11 ans. Donc, non, ils font des études.
Donc, ça va. Tu as l'impression que...
J'espère qu'ils vont être indépendants, autonomes financièrement. C'est ce que... Vous savez, dans la vie, mieux vaut apprendre à pêcher que donner à manger tous les jours. Hein.
Ça leur a pas fait des ascenseurs sociaux de se retrouver avec des millions, puis ensuite un papa en prison?
Si. Et surtout, ils ont eu, comme mes parents, ils ont eu la honte de ce qui m'était, d'avoir leur fils en prison, tout ça. Et aujourd'hui, cette reconnaissance du public, moi-même, des fois, je lis les messages d'empathie que je reçois, ça lui fait beaucoup de bien. Et mes enfants, leurs potes, ils sont fans, tout ça, vous voyez. Donc, il y a un peu quelque chose qui s'est renversé.
Ouais, il y a eu un creux de la vague où c'était peut-être très dur pour tout le monde.
Et voilà.
Et là, t'en sors, vous en sortez, en fait.
Et là, on se dit, non, mais pas financièrement, mais en termes d'image, il y a quelque chose qui se passe qui n'est pas désagréable.
Ça va mieux.
Qu'est-ce que tu leur dis à tes enfants concernant l'argent?
Ils sont suffisamment intelligents pour comprendre que c'est vraiment pas la voie. Ils n'ont pas du tout suivi cette voie. Dieu merci, et j'aurais jamais accepté qu'ils le fassent. Ils sont dans la plus stricte légalité. Hein. Et d'eux-mêmes, ils l'ont compris d'eux-mêmes. Hein.
Ils aiment bien se payer des grosses bagnoles?
Non, parce que j'ai qu'un seul de mes enfants qui a son permis d'ailleurs. Par contre, ils me posent souvent des questions sur des voitures, comment elles étaient, comment elles se conduisaient, comment... Ça, ils sont assez fascinés par ça. Parce qu'ils étaient enfants, ils ne s'en rappellent pas.
Ils se souviennent de la première classe, ils se souviennent des grands apparts, ils se souviennent des beaux meubles.
Ouais, non, ils se rappellent de tout, ouais, mais ils ne sont pas frustrés. Hein.
Ils n'ont pas de regrets?
Non. Non, ils ont confiance en moi.
Voilà, cette fois, c'est vraiment terminé. Vous avez écouté Thune, un podcast de Laurence Velli et Anna Borel. Ces épisodes, les trois épisodes avec Grégory Zaoui, ont été post-produits par Frédéric Fortuny sur une musique d'Emma Bixon. Merci pour votre écoute. N'hésitez pas à partager, à en parler si ça vous a plu et à le faire savoir sur les réseaux sociaux. À très bientôt. Mais avant l'épisode, j'aimerais vous rappeler que notre premier sponsor, c'est vous. Pour faire Thune, vous savez qu'on a besoin de thunes. Ça prend du temps, du travail de montage, de journalisme. Je vous épargne le fichier Excel des coûts. Mais à vous qui kiffez Thune, pour assurer notre indépendance financière et pour que ça continue, eh bien, il n'y a qu'un moyen, la cagnotte Tipeee. Sur Insta, via le lien en bio, ou sur Google, en tapant Thune Podcast Tipeee, avec 3 E, T-I-P-E-E-E. Vous êtes déjà nombreuses, nombreux, mais on espère que vous le serez encore plus. pour que tu ne continues, je compte sur vous.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home.
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.